Oh.
Bienvenue sur J'enrage, ton émission féministe lilloise.
Un dimanche sur deux, J'enrage décrypte les enjeux
de l'actualité politique, mais pas que.
De 14 à 15 heures, toi-même tu sais par cœur.
Par cœur.
Bonjour, bienvenue sur J'enrage, votre émission féministe lilloise. On est dimanche 9.
10.
10. Il est 14h. Vous êtes bien sur RCV 99 FM. Aujourd'hui, on va vous parler des Riot Girls, donc un mouvement transdisciplinaire à la base, même si on le perçoit surtout comme une culture musicale en France, qui émerge au début des années 90 et qui est surtout un mouvement politique qu'on pourrait qualifier d'anarcho-punk féministe. Puisqu'à la fois ses tenantes se revendiquent de la culture DIY, do it yourself, fais-le toi-même en français, et elles sont très impliquées dans la création de fanzines par exemple, qui sont des sortes de brochures qui servent à diffuser des idées alternatives à bas coût, on va dire ça comme ça, et visibilisent des nouvelles revendications qui font suite à, au contre-coup ou à ce qu'elles-mêmes évoquent souvent comme le retour du bâton, backlash en anglais, du mouvement de la seconde vague féministe qui a fait son temps fin 60 et surtout au cours de la décennie 70. C'est quoi ce backlash? C'est l'impression collective, la fausse idée que maintenant les femmes sont plus des êtres oppressés dans la société. Et c'est aussi un retour en arrière d'un point de vue mentalité et d'un point de vue des mœurs et de la politique en termes de mesures directes. Enfin bref, on y revient tout de suite après deux chansons. À tout de suite.
We'll be right back.
Et voilà, on est de retour sur RCV 99 FM avec Jean Rage, je suis avec Anaëlle.
Salut.
Alors pourquoi ces deux chansons? Déjà, quelle chanson c'était? C'était Bikini Kill, la première Bikini Kill de Rebel Girl, le nom de la chanson. Un titre sorti en 93, sorti de l'album Yeah, donc 4 fois Yeah. Et puis le deuxième titre, c'était Bratmobile, ça c'est le nom du groupe. Le nom de la chanson Brat Girl, un titre sorti en 94 de l'album The Real Janelle. Alors pourquoi ces deux chansons? Brat Girl, c'est une chanson qui évoque déjà cette figure phare du mouvement, la femme, enfant et putain à la fois, puisque Brat, ça fait référence à une sale gosse, un enfant gâté, un enfant un peu impoli comme ça. Mais surtout, en fait, la chanson parle de sexualité de manière très explicite, voire de prostitution à la fin, selon comment on veut l'interpréter. Et du coup, cette figure-là, enfin, ce jeu entre ces deux figures de la femme enfant et la femme putain, c'est quelque chose qui a vachement été repris dans le mouvement des Red Girls, dans leur manière de se vestir et de se comporter sur scène, notamment. Et puis, la première chanson, Rebel Girl, elle aborde à la fois l'homosexualité, avec cette relation entre la narratrice de la chanson et la fameuse Rebel Girl, fille rebelle, dont il est question dans la chanson. Et puis, il y a le mot dyke, qui veut dire Gwyn, qui est à la base une insulte, mais qui est donc déjà, qui est déjà une insulte que se réapproprient les lesbiennes féministes. Voilà, et donc qui est déjà prononcé dans la fameuse chanson. Et puis la chanson, elle évoque aussi cette attitude de, enfin cette attitude que la fameuse Rebel Girl a dans la chanson, qui fait ce qu'elle veut dans la rue, donc en fait dans l'espace public. Or, cette thématique de la place des femmes dans l'espace public, c'était une thématique centrale dans le mouvement des Riot Girls. Voilà pour ces deux petites chansons. Alors, Riot Girl, c'est une expression qui serait apparue dans les années 91 dans la bouche de Jen Smith, membre des Bratmobile, et qui aurait appelé à l'émeute des meufs. Petite explication avec Anaëlle.
Alors, pour resituer le contexte, moi, je vais commencer avant le mouvement en tant que tel, en fait. Du coup, on part donc à la fin des années 80 et au début des années 90 à Olympia, une ville de la côte ouest qui est située juste en dessous de Seattle, dans l'état de Washington. Et il y a dans cette ville-là, qui n'est pas très moderne, qui est restée bloquée dans les années 70, c'est un peu vieillot, il y a une université qui, elle, est un bouillonnement culturel et de nouvelles manières d'enseigner et d'étudier hyper important. Et il y a énormément d'artistes, il y a énormément de militants dans cette université-là, et dont des militantes féministes. Et puis c'est aussi l'époque du grunge aux États-Unis dans les années 80, et le punk et le grunge, la scène musicale de l'époque, en tout cas à Olympia, est hyper masculine et saturée pour par les mecs. Les filles n'ont pas énormément leur place. Et puis, c'est au-delà même du fait que ce soit masculin, c'est aussi sexiste. Et donc, en fait, il y a plusieurs filles de l'université d'Olympia, dont Kathleen Hanna, qui est...
Oui. Alors, peut-être explicite un peu ce que ça veut dire, et saturé pareil pour les mecs. Ça veut dire que c'est des gars qui sont dans les ouais. groupes, que c'est des chansons écrites pour d'autres gars, que c'est des gars qui vont au concert et qui prennent toute ouais. la place dans les concerts. Quoi.
Ouais, carrément. Et puis c'est même. C'est presque violent. Les filles qui vont au concert, elles sont reléguées au fond de scène. Et puis elles s'y retrouvent pas forcément parce qu'en plus, effectivement, les propos sont sexistes. Il y a des pochettes d'albums. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc important. Tout ce que je vous raconte, on le trouve assez facilement, mais il y a Arte a fait un reportage sur le mouvement des Riot Girls qui est passé autour du 6-7 mars, qui s'appelle Riot Girl, quand les filles prennent le pouvoir en français, ou Riot Girl, als Mädchen die Macht übernahmen en allemand, par Sonia Gonzalez. Et donc, quand on voit dans le reportage des pochettes d'albums, par exemple de grunge ou de punk, c'est souvent des filles qui sont nues ou qui sont attachées, qui sont violentées. Enfin voilà, c'est pas super cool pour les nanas. Et donc il y a une partie des militantes féministes d'Olympia, dont Kathleen Hanna et Toby Vail à l'époque, qui fondent donc Bikini Kill. Donc ça fait pas, c'est pas encore dans le mouvement des Riot Girls, on parle pas encore de Riot Girls à l'époque, c'est juste voilà, un groupe de filles pour les filles qui fait du punk féminin et féministe. Et c'est hyper important parce que elle commence à faire des concerts, il y a des gars qui viennent au concert et c'est les gars qui sont sur le devant de la scène. Sauf que il y a un moment aussi où, par exemple, dans une vidéo dans le reportage, on voit Kathleen Hanna qui dit à un mec de dégager, qui dit que là, son défi, c'est un concert pour les filles et que les mecs, ils sont bien gentils, mais ils vont aller au fond de la salle, ils vont laisser les filles s'approcher. Donc, en plus, elles sont habillées. Kathleen Hanna, elle est en soutif et en jupe. Il y a marqué slut sur son ventre quand elle chante, c'est dire salope. Enfin, voilà, il y a tout un. Elles reprennent et elles retournent tout un certain nombre de stigmates. Et donc, voilà, ça commence à... C'est un des premiers groupes Bikini Kill. Et d'ailleurs, Kathleen Hanna, elle explique que la volonté, c'était de montrer ce qu'était le féminisme, de montrer ce qu'était un groupe punk de filles. Mais c'était pas... La volonté, c'était pas de produire du discours. En fait, c'était vraiment de faire des choses, d'être dans l'action. D'où le fait aussi qu'elles aient formé des groupes et leurs chansons abordaient des sujets qui étaient hyper tabous à l'époque, qui n'étaient pas abordés par les gars, la sexualité ou l'homosexualité, l'inceste, la solidarité aussi féminine, tout ça. Et c'était important pour les spectatrices aussi de pouvoir s'identifier à ce genre de nana. Pour pas qu'elles aient peur, qu'elles puissent aussi casser les codes, les normes. Elles pouvaient sauter partout, crier, rire fort, parler fort, dire des gros mots. Enfin voilà, c'était un vivier hyper important. Et donc en 91, Bikini Kill est rejoint par Bratmobile, qui est fondé par Alison Wolff. Et assez vite, cette même année, les deux groupes partent en tournée, enfin vont donner des concerts en fait à Washington même. Et c'est un timing parfait parce qu'à Washington à l'époque, il y a plusieurs manifs de militants Greenpeace, de militants ou de mouvements homosexuels qui militent pour leurs droits. Il y a des militants aussi ou des mouvements anti-guerre du Golfe. Enfin, ça bouge pas mal à Washington. Et les filles qui vont donner, donc Bratmobile et Bikini Kill qui vont donner des concerts là-bas, elles se rendent compte que même à Washington, la scène grunge et la scène musicale, elle est faite par et pour des mecs, encore une fois. Et donc elles ont envie ensemble de faire un pas de plus. Et en fait, elles commencent à créer un fanzine, pour le coup, qui s'appelle Riot Girl, en fait. Et il a un succès phénoménal. Il paraît régulièrement. Alors c'est fait avec des collages, des découpages et de la photocopieuse. Et il essaime très très vite. Du coup, c'est un truc à se partager, à se transmettre. C'est comme un manifeste à chaque numéro qui est publié. Et dans le premier numéro, qui est daté de juillet 91, on peut lire, je vous le dis en anglais et je vous le traduis ensuite, « No, we are not paranoid. No, we are not man-haters. No, we are not worrying too much. No, we are not taking it too seriously. » Donc ça termine un manifeste, en fait, du premier numéro. Donc « Non, nous ne sommes pas parano. Non, nous ne sommes pas match. Enfin, nous n'avons pas de haine envers les hommes. » Tu me dis si je traduis mal. Non, nous ne sommes pas exagérément en colère et non, nous ne prenons pas ça trop au sérieux. Et donc en fait, de fanzines, de magazines, elles appellent ça des mini-zines. Le mouvement, il prend une telle ampleur dans tous les États-Unis, vraiment, il traverse le pays, que ça devient un mouvement et que c'est à ce moment-là qu'on parle de mouvement punk et de mouvement militant.
Voilà pour un peu le contexte géopolitique, on va dire, dans lequel et musical, dans lequel émerge ce mouvement des Riot Girls. Pour revenir un peu plus à ce lien avec le féminisme, ou dans quel contexte de lutte féministe il s'insère, je vous parlais de Backlash tout à l'heure, donc revenons-y un peu plus en détail. Backlash, c'est soit retour du bâton pour les féministes dans les années 80, donc, qui, au lieu de voir se développer davantage les lois vers plus de droits pour les femmes, plus de liberté, la possibilité d'une émancipation qui ferait suite au mouvement féministe des années 70, on y reviendra. Il y a un retour du bâton pour les féministes qui sont les témoins d'une politique réactionnaire, avec notamment un possible retour vers l'interdiction de l'avortement qui est quelque chose qu'elles avaient réussi à gagner avec donc ces mouvements des années 70. Ou du moins, il y a des mouvements pro-life qui redoublent d'énergie à ce moment-là dans la lutte contre la libéralisation de l'avortement. Et puis également, il y a des affaires d'agression sexuelle banalisées, tournées en dérision, etc. Donc il y a non seulement un manque d'investissement au niveau des politiques publiques et un manque d'évolution au niveau des mœurs dans la lutte contre l'oppression des femmes. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a un développement parfois plus pernicieux de ces formes d'oppression. Donc juste pour rappel, à la fin des années 60 et puis pendant toute la décennie des années 70, il y a des mouvements féministes qui ont lutté pour faire reconnaître l'oppression des femmes. Donc elles développent des théories féministes qui analysent les rapports de domination des hommes et de la société sur les femmes, plus particulièrement dans ce qu'on appelle le domaine de la reproduction, c'est-à-dire la maternité, le corps, la famille, le travail domestique, etc. Et du coup, à la fois aux États-Unis et à la fois en France, pas exactement en même temps, il y a toujours un petit retard en France. On a par exemple dès 68 en France le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, et puis le MLAC, M-L-A-C, Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, avec cette lutte qui se cristallise autour de la question du contrôle des naissances par la société. Et en termes de mesures politiques, mais aussi morales, donc il y a un regard moral sur les femmes qui ont recours à l'avortement. Et donc il y a toute cette lutte qui s'organise en France et aux États-Unis un petit peu avant pour la libération de l'avortement. Aux USA, il s'agissait du Women's Lib, Women's Liberation. Je vous laisse vous informer sur ça si vous voulez exactement en savoir un peu plus. Mais du coup, c'est dans ce contexte-là d'un mouvement féministe qui a réussi à faire reconnaître certains droits et puis d'un retour en arrière avec aussi aux États-Unis des présidents qui sont conservateurs avec Reagan. Ensuite, en 91, c'est Bush, il y a la guerre du Golfe, etc. Enfin, il y a tout un mouvement politique chez les jeunes qui essaie de remettre en question un peu ce retour en arrière et ce conservatisme ambiant.
Bah d'ailleurs, dans le grunge est un mouvement musical politique en fait au départ contre la politique américaine de l'époque, donc contre Reagan puis contre Bush. Et c'est dans ce moment-là aussi que les Riot Girls s'inscrivent. Mais
voilà, on fait une petite pause. Tout de suite, on écoute Babes in Toyland, He's My Thing de l'album Dystopia sorti en 1994. Et juste après, Excuse 27, donc Excuse 17, avec une chanson qui s'intitule Special Guest Me. À tout de suite.
Yeah.
Voilà, vous êtes de retour sur RCV, toujours avec Jean Rage, et on est sur le 99 FM. Alors, l'écriture de ces chansons est marquée par des revendications féministes. C'est le cas ici dans He's My Thing, The Babes in Thailand, le premier titre qu'on vous a passé. Il est question ici de l'objectivation du corps d'un homme à l'image de l'objectivation du corps des femmes par les hommes. Donc c'est un renversement des valeurs. Et la plupart des chansons parlent de violence conjugale, d'agression sexuelle, évoquent la figure de la pute, la place des femmes dans l'espace public, l'homosexualité et de manière plus générale le droit de faire ce qu'on veut de son corps, etc. On continuera de vous en parler au cours de cette émission sur RCV.
Alors pour revenir un peu sur le mouvement Riot Girl en tant que tel, c'est un mouvement, c'est un collectif en fait, ça s'apparente à un collectif d'artistes de tous bords, alors on l'associe très régulièrement à la scène musicale, mais c'est beaucoup plus large que ça en fait, et comme dans tout bon collectif, il n'y a pas de leader. C'est important de revenir là-dessus parce que...
Bah non, justement, comme tout bon collectif, il n'y a pas forcément pas de leader. Mais là, vu que ça vient d'une mouvance anarchiste, punk, féministe, il n'y en a pas.
Ouais. Et puis c'est en plus un mouvement qui est hyper large. Donc même si Bikini Kill et Bratmobile ont été des stars pendant un très court laps de temps parce que ça a été un peu les groupes fondateurs du mouvement Riot Girl, en tout cas du magazine, elles n'ont pas été des stars longtemps en fait. Elles ont été vraiment la figure, et Rebel Girl de Bikini Kill qu'on a passé tout à l'heure, c'est devenu un peu un hymne au mouvement Riot Girl. Mais je disais justement, c'est important de revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de leader ou qu'il n'y ait pas de star, parce que quand on reviendra tout à l'heure sur la médiatisation, c'est la médiatisation s'est un peu joué de ça et a fait imploser le mouvement, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc la valeur principale de ce mouvement Riot Girl, Zab l'a dit tout à l'heure, c'est do it yourself, donc fais-le toi-même. Et on en parle surtout par rapport à la scène musicale, aux concerts faits par et pour les filles, pardon. Mais il y a énormément de fanzines qui vont être développées, mais vraiment, vraiment, vraiment énormément. Et en fait, chaque groupe, quasiment, ou chaque artiste, parce qu'il n'y a pas que des groupes, a son propre fanzine. Et du coup, il y a une foultitude de thèmes qui sont abordés. Il y a des fanzines antiracistes, pour le droit des femmes et des féministes black. Par exemple, il y a une artiste qui est photographe maintenant et qui était dessinatrice à l'époque, qui a créé un fanzine, qui n'était pas forcément dans un groupe, enfin elle faisait partie du mouvement Riot Girl, mais pas par rapport à la scène musicale, qui a créé un fanzine qui s'appelle I Love Amy Carter, qui était la fille du président Carter. Et en fait, c'était assez rigolo parce qu'elle se mettait dans la tête de la fille du président, ce que ça devait faire d'être une petite fille à la Maison Blanche. Et comme c'était une femme qui faisait ça et que ça s'appelait I Love Amy Carter, elle parlait beaucoup d'homosexualité féminine, elle revenait sur plein de tabous comme ça. Et enfin, par exemple, ce fanzine-là a eu pas mal de succès parce qu'il a permis, la fondatrice de ce fanzine a reçu pas mal de lettres qui disaient qu'elle avait permis à plein de lycéens de faire leur coming out ou des trucs comme ça. Donc ça se diffusait assez facilement et les fanzines, c'était vraiment quelque chose qui était assez facile à faire avec la révolution de la photocopieuse à l'époque. Elles y passaient leur nuit, hein, mais c'était vraiment hyper important. Et d'ailleurs, ils sont conservés maintenant. Il y a des archives de fanzines du mouvement Riot Girl et tout dans les bibliothèques universitaires. Enfin, c'est aux États-Unis. C'est assez... c'est vraiment hyper riche, quoi. Et il y a aussi et surtout Calvin Johnson, qui est un étudiant d'Olympia, qui avait un groupe de punk à l'époque, qui a créé un label, K Records. Et donc il avait un local qui servait de maison de disques et de lieu d'enregistrement pour les groupes des mouvements Riot Girl. Et en fait, il voulait produire et développer une musique alternative fondée sur le do it yourself. Et il était engagé, lui, sur scène avec son groupe, pardon pour le bruit de chaise. Et il était engagé avec son groupe, mais c'est ce qu'il explique, il était d'abord et avant tout un fan en tant que producteur. Et il voulait vraiment mettre en avant la musique punk féministe et féminine. Et donc il a créé comme ça, il a produit les premiers albums des Bikini Kill, les premiers albums des Bratmobile. Et le fait qu'il y ait des albums qui aient un support pour les chansons et pas que les concerts, ça a permis aussi au mouvement de se développer à travers tout le pays. Et de s'exporter aussi, parce qu'après, plus tard, il y a eu des autres pays qui ont été envahis par le mouvement Riot Girl. Et il y a un truc aussi, ça s'est fait petit à petit, mais le mouvement Riot Girl, c'est en majorité féminin, 90%, mais pas uniquement. Et par exemple, le groupe Kill Rock Stars devient célèbre. Et il a été fondé par un mec qui s'appelle Slim Moon, et qui était le premier gars connu appartenant et se revendiquant du mouvement Riot Girl. Donc c'est aussi, ça aussi, on ne le dit pas super souvent, mais il y avait des gars qui étaient associés au mouvement petit à petit. Donc voilà, pour le mouvement en tant que tel.
Alors voilà, c'est un mouvement qui remet en question les codes à la fois de la féminité, de ce que doit être une femme dans l'espace public, etc. Parce que elle monte sur scène, elle appelle les autres meufs qui sont dans des concerts à venir devant la scène. Elles ont des propos assez violents en termes de vocabulaire, etc.
Puis elles se réapproprient leur corps aussi parce que, par exemple, la chanteuse de Alison Wolfe, la chanteuse de Bratmobile, il y a un moment où elle est en t-shirt culotte. Kathleen Nana, elle chante en soutif où il est marqué salope sur son ventre en anglais. Enfin, elle se réapproprie vraiment leur corps et elle retourne les stigmates, quoi.
Voilà, et du coup, tout ça, ça dérange. Et forcément, les médias, ça passe pas hyper bien. Du coup, le mouvement, il est victime d'une médiatisation simpliste, réductrice et surtout limite diffamante. Parce qu'en fait, le mouvement est associé avec des artistes qui d'une part ne revendiquent pas des Riot Girls. Il y a plein d'artistes qui sont associés à ce mouvement dans les médias qui ne s'en revendiquent pas. C'est des groupes qui parfois sont sont pas politisés. Les médias font des bikini kills, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le leader du mouvement, alors même qu'elles sont pas, elles sont, pardon, comme elles viennent d'une mouvance anarcho-punk féministe, elles remettent en question ce fait qu'ils puissent avoir un leader ou une leaduse et cette idée de hiérarchisation avec une tête pensante, etc. Le mouvement, il est aussi à certains moments réduit à des pratiques musicales et de concerts violentes comme dans le grunge, etc. Bref, les médias se concentrent aussi sur la provocation avec ce que font les meufs pendant les concerts de leur corps, plutôt que sur le message que ces personnes essaient de visibiliser. Tout de suite, on fait une autre petite pause. On écoute Heaven to Betsy, un duo qui sort un seul album en 94 qui s'appelle Calculated, dont sont tirées les deux chansons qui vont suivre. La première, c'est Terrorist, une chanson qui dénonce l'objectivation et la sexualisation des femmes dans l'espace public. Mais la Riot Girl Touch ici, c'est un peu la violence qui est exprimée à l'égard d'un homme dans la rue qui suivrait la narratrice slash chanteuse. Donc elle raconte dans la chanson comment elle va découper ce gars qui la suit, enfoncer ses doigts dans ses yeux et tout. Elle dit « I'll cut you up, gouge out your eyes ». Donc lui, je vais te découper en morceaux et m'enfoncer tes doigts, enfoncer mes doigts dans tes yeux. Donc il y a à la fois cette dénonciation d'une oppression, le fait qu'elle puisse pas se sentir légitime dans la rue et qu'un gars la suive comme ça. Mais il y a également la réappropriation de certains codes plutôt masculins dans la musique et d'une violence qui est considérée donc typiquement masculine. Et puis enfin, il y a aussi l'idée que non, on va plus se laisser faire. Gare à toi maintenant si tu fais un pas de travers. La deuxième chanson, toujours de Heaven to Betsy, du même album Calculated, c'est White Girl. Ici est évoqué le racisme, l'hégémonie du sujet blanc, pardon, le privilège que sous-entend la blanchitude. Donc on voit bien qu'il y a déjà cette articulation entre lutte raciste et anticolonialiste et féminisme. Tout à l'heure, on parlait également d'homosexualité, notamment avec Rebel Girl. Donc il y a aussi cette articulation avec l'orientation sexuelle, etc. Tout ça, ça marque la troisième... Enfin non, c'est pas le mouvement des Riot Girls qui marque la troisième vague du féminisme. C'est l'inverse, puisque la troisième vague, elle apparaît plutôt dans les années 80. Mais du coup, il y a cette influence. On associe généralement les Riot Girls avec cette fameuse troisième vague qui correspond plutôt donc aux années 80, comme je viens de le dire. Et ce mouvement des... Comment dire, cette troisième vague, elle est issue en fait des minorités sexuelles et ethniques des mouvements féministes. Ces minorités ne se reconnaissant pas toujours très bien dans les mouvements féministes, donc c'est-à-dire les minorités, les lesbiennes et les personnes racisées. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il faut avouer que les Riot Girls, souvent, c'est des meufs blanches, et c'est même des meufs qui sont assez privilégiées, puisqu'elles ont accès à une certaine éducation. Elles sont enfin les personnes qui ont lancé ce mouvement, elles sont quand même à l'université, donc c'est un certain privilège. Mais bon, White Girl en est la preuve, ce privilège de classe et de race, il est remis en question par les Riot Girls.
Privilège de race, je ne suis pas tout à fait sûre. Alors après, nous, à notre époque, on se fonde aussi sur ce qui a été fait et ce qui a été accessible par les médias. Et du coup, je pense qu'il y a des biais qui sont pris. Mais par exemple, dans le reportage d'Arte, on voit une nana racisée qui parle, qui intervient et qui, elle, a fait un fanzine justement sur les luttes racistes et un fanzine antiraciste. Et alors, c'est une des seules à être interviewée, je suis d'accord, mais dans les propos qu'elle tient, c'était pas si rare que ça. Elles étaient en minorité, on est d'accord, mais elles avaient toute leur place dans le mouvement, quoi.
En tout cas, elles sont pas médiatisées comme les autres.
Non, ça c'est sûr.
Tout de suite, donc, on écoute Heavens, to Betsy, Terrorist et White Girl. À tout de suite.
Vous êtes toujours sur RCV 99FM et toujours avec Jean Rage. Pour revenir un peu sur la reprise médiatique, en tout cas sur ce que Zab disait tout à l'heure, sur les groupes qui ne se revendiquent pas de l'appartenance au mouvement Riot Girl, par exemple L7 ou Hole, donc L7 créé par Jennifer Finch pardon, et Hole créé par Courtney Love. bien connue du grand public sous le surnom de Veuve Joyeuse. En fait, c'est des groupes qui ont été créés, enfin qui se sont créés à la fin des années 80. Donc un petit peu avant Bikini Kill et Bratmobile, un petit peu avant le mouvement Riot Girl. Et en fait, elles expliquent, elles expriment assez facilement que voilà, elles, elles ne se revendiquent pas du mouvement Riot Girl. Et en fait, le problème que ça pose, c'est que les médias les ont positionnées contre le mouvement Riot Girl, du coup. Et t'es trop fière. donc les médias les ont positionnées contre le mouvement, sauf que Jennifer Finch, par exemple, explique dans des archives, tout ça, que... Enfin, elles appartiennent pas du tout à la même scène, en fait. C'est même pas qu'elles s'en fichent, ou qu'elles s'en désintéressent, mais c'est pas son propos et c'est pas forcément son féminisme non plus. Elles appartiennent pas à la même scène. Et donc, il y a eu. Les médias ont créé des espèces de tensions comme ça entre les groupes appartenant au mouvement Riot Girl et aux autres groupes punk de l'époque, féminins aussi, en mettant tout le monde dans le même sac ou en les opposant, alors que c'était pas forcément le cas. Et par exemple, Courtney Love aussi, donc fondatrice de Hole, et petite amie de Kurt Cobain, développait, elle, plutôt un discours féministe qui était pas ouvertement critique ou pas ouvertement en opposition au féminisme développé dans le mouvement Riot Girl, mais qui disait que elle dit qu'elle voit pas trop l'intérêt, pas trop l'importance, et que pour elle c'est un peu violent, et du coup c'est pareil, ça met en porte à faux deux féminismes, d'une même génération, deux versions de féminisme au sein d'une même génération qui ont grandi au sein d'un même pays en plus, et donc qui ont le même héritage socioculturel et féministe pour le coup, etc. Surtout que Kurt Cobain, il est quand même garant, enfin pas garant, mais il est ami avec Kathleen Nana depuis pas mal de temps, et le mouvement Riot Girl s'est aussi développé parce qu'il y a eu des groupes grunge comme Nirvana qui se sont appuyés sur ce mouvement-là et qui l'ont propulsé aussi et qui s'en sont montrés... les amis et les partenaires, et donc c'est pareil, enfin voilà, il y a tout un pan de cette militarisation là qui a monté plusieurs féminismes et plusieurs groupes musicaux issus de scènes musicales différentes les uns contre les autres, alors que voilà, chacun traçait sa route et qu'il n'y avait pas forcément besoin de les mettre en opposition.
Voilà, du coup, entre ces désolidarisations ou le fait qu'il y ait ces contradictions mais pas du même milieu du coup, mais entre groupes qui se réclament pas des mêmes... Enfin, qui sont d'un côté, pour moi, beaucoup moins politisés, et d'un autre, beaucoup plus politisés. Mais du coup, les autres groupes délégitimisent les revendications du... Bref, des Riot Girls.
Pour revenir sur la politisation, il y a aussi tout un pan, je pense... de groupes, comme par exemple... Enfin, les groupes de... Le groupe de Courtney Love... Son but à elle, le but du groupe, c'était de devenir un groupe connu. Enfin, je veux dire, c'était de faire de la musique son métier dans la vie. Et donc de s'imposer sur la scène musicale en tant qu'artiste, et donc il y avait un but financier derrière. Alors que le mouvement Riot Girl, c'est un mouvement politique et revendicatif et militant. Je veux dire, la reconnaissance et le fric qu'ils peuvent faire derrière, elles s'en foutent, les filles. Et je pense que ça joue sur la politisation des groupes aussi.
C'est clair. Et du coup, au milieu des années 90, on va dire 95, la plupart des groupes ont splitté pour plusieurs raisons dont on vient de faire la liste. Donc il y a cet acharnement des médias à ne pas visibiliser leur message politique et à les réduire à de la provoque. Et puis il y a cette association de certains groupes qui se revendiquent absolument pas et qui sont pas politisés, qui sont associés avec le mouvement des Riot Girls. Enfin bref, tout ça, ça délégitimise leur discours politique qui est la première chose, enfin qui est la raison première pour laquelle elles font de la musique. Bref. Et puis aussi, il y a également l'émergence du girl power avec des groupes comme les Spice Girls qui viennent occuper l'espace médiatique. Et en plus, leur message est beaucoup plus facile à intégrer. C'est pas explicitement politique, ça dérange beaucoup moins les codes de la féminité. Ça correspond à une culture qui est hétéronormative. Le public visé est plus large parce que les enfants peuvent l'écouter, ce qui n'est pas le cas pour les Riot Girls. En tout cas, il y a un vocabulaire qui est beaucoup plus violent et qui est considéré comme... Enfin, que les filles ne sont pas censées dire, en fait, à cette époque-là. Donc, bref, c'est vraiment un truc qui est beaucoup plus facile à diffuser et à médiatiser. Le mouvement, du coup, perd du terrain, s'essouffle en quelque sorte. Pour autant, les revendications restent là. Les membres des différents groupes qui ont splitté militent soit dans d'autres sphères, pardon, soit reforment des groupes. C'est le cas de Sleater-Kinney, par exemple, et du Tigre. Alors, Sleater-Kinney, il est formé en 94, donc c'est déjà vachement tôt, hein, c'est avant que le mouvement vraiment s'effondre. Entre guillemets. Il est fondé par Carrie Brownstein, je ne sais pas si, comment ça se prononce, du groupe Excuse 27, dont on vous a passé une chanson tout à l'heure, et aussi par Janet Weiss et Corinne Tucker de Heavens to Betsy, dont on vous a passé deux chansons. Le groupe continuera de produire et de se produire jusqu'en 2006, puis fera une pause et reprendra ses activités en 2014. Donc les membres ont une belle carrière punk, puis un peu plus rock, derrière elle et devant elle. Et il y a aussi le Tigre qui est formé un peu plus tard en 98 par Kathleen Hanna, dont on vous a parlé des Bikini Kills, et Johan Fateman et J.D. Samson, et qui surfent cette fois-ci sur notre vague, l'électropunk. On écoute deux chansons de ces deux groupes tout de suite. La chanson de Sleater-Kinney, Dig Me Out, et puis la chanson du Tigre, Decepticon. À tout de suite.
Every day.
See you later.
Vous êtes toujours sur RCV 99FM et toujours avec Jean Rage. Juste pour terminer rapidement sur la reprise médiatique et sur le splittage des groupes et la fin du mouvement Riot Girl. Il y a aussi en dehors même en fait de la médiation et de l'opposition des groupes et tout. Zab danse dans le studio et du coup elle me fait rire et j'arrive pas à me concentrer. Il y a aussi le fait que le mouvement a implosé parce qu'en fait les médias ont
monté entre elles. Enfin les unes ont essayé. Enfin bref.
En fait elles les ont pas vraiment montées contre les unes contre les autres, mais il y a eu tout un truc qui a fait que comme Bikini Kill et Bratmobile étaient les groupes fondateurs du mouvement entre guillemets, c'est surtout elles qui ont été médiatisées. C'est surtout elles dont on voyait les photos, dont on voyait les interviews, dont on voyait les articles, etc. Machin. Et il y a eu tout un nombre de groupes issus du mouvement Red Girl qui s'est dit « Ouais, mais pourquoi nous, on ne nous voit pas ? Nous aussi, on a des choses à dire. » On est en plus, même si elles faisaient partie du même mouvement, leurs revendications politiques et ou féministes n'étaient pas forcément exactement les mêmes. Et du coup, il y a eu une espèce d'incompréhension comme ça et de mésinterprétation du fait que Bikini Kill et Bratmobile soient hyper présents dans les médias. C'était pas du tout leur choix parce que, par exemple, Catherine Nana, elle explique. Enfin, c'est une autre nana d'un autre groupe qui explique ça à propos de Catherine Nana, qui, en voyant le début des médias et tout, a appelé tout le monde, a appelé toutes les copines et tout le monde. Enfin, tout le monde s'est appelé entre eux pour dire on boycotte à mort les médias, on fait aucune photo, on donne aucune interview, on se concentre sur les fanzines pour vraiment développer nos idées parce qu'ils font de la merde avec nos idées politiques et tout, et vraiment on boycotte à mort. Et malgré ça, ça s'est un peu retourné contre elle aussi parce que bah, les médias ne se sont intéressés qu'à ces deux groupes-là et ont monté en star Kathy Nana et Alison Wolfe alors que c'était pas du tout le but, et du coup le mouvement s'est aussi essoufflé et un peu implosé à cause de ça. C'est une incompréhension, une mésinterprétation des autres groupes.
Autre hypothèse aussi peut-être complémentaire, c'est le fait que ben, ces nanas, elles se sont réappropriées certains médias qui étaient pas entre leurs mains, à la fois le média musique et puis le média magazine sous forme de fanzine. Et c'est vrai que ça a peut-être aussi dérangé un peu certains, le fait qu'on ne doive pas passer par eux pour diffuser les idées qu'on souhaite diffuser.
Ouais, et puis sur la suprématie, entre guillemets, ou sur la star attitude de Bikini Kill et de Bratmobile, le fait aussi que Kathy Nana soit proche de Kurt Cobain, qui était super connu dans le grunge, enfin Nirvana, il a eu un succès fulgurant, etc. Ça a peut-être aussi joué sur la surmédiatisation de Bikini Kill et Kathy Nana, en fait.
Trêve d'hypothèse, pour finir cette émission, donc dernier groupe issu du mouvement des Riot Girls, The Gossip, qui s'est formé en 99, donc à peu près 10 ans, un petit peu moins, après l'émergence de ce mouvement transdisciplinaire, on le rappelle. Alors, groupe qu'on peut définitivement considérer comme la postérité du mouvement, avec des chansons qui sont... aborde pas exactement les mêmes thèmes, mais en tout cas, parce que la société évolue aussi en 10 ans. Hein. Mais du coup, des chansons qui sont pro-LGBTQI, qui sont pro-mariage pour tous, à un moment donné où il y a des débats qui commencent et des voix contre et des voix pour qui commencent à s'élever, avec quand même une icône queer comme la chanteuse Bette Ditto. Ils ont quand même aussi réussi à conquérir la scène mainstream tout en restant hyper politisé, donc c'est quand même assez fort ça. Tout de suite, on écoute Red Hot, un titre qui est sorti en 2000, une des premières chansons du groupe, bien punk rock, et puis Standing in the Way of Control, sorti en 2006, donc déjà 6 ans plus tard, qui est toujours aussi rock. On vous fera par contre l'économie du très connu Heavy Cross, qui est beaucoup plus funk, que vous pouvez trouver sur internet très facilement, donc on vous invite à le faire. Vous pourrez l'écouter après cette émission. Sinon, après ces deux titres qu'on vous passe, vous pouvez rester sur RCV avec Les Entonnoirs, une émission animée par des patients et des infirmiers des CMP, Centre Médico-Psychologique de Roubaix. Donc c'est l'émission qui suivra. Et sinon...
Juste pour revenir rapidement sur Kathy Nana, elle s'est quand même vue remettre à New York le Feminist Press Award en 2013. Et ça, on le voit au début du truc d'Arte. Et dans un discours un mini discours de remerciement qu'elle fait, etc., elle dit quand même punk is an idea, donc le punk est une idée, une enfin voilà, à faire à transmettre, pardon. Et voilà, en remerciement, donc voilà, Kathleen Anna est restée punk et c'est aussi, elle a parlé, elle est revenue sur Bikini Kill, sur le mouvement des Riot Girls et sur le fait qu'elle-même s'inscrive dans ce mouvement-là et que c'est aussi parce qu'elle était dans le mouvement Riot Girls qu'elle a pu avoir ce Feminist Press Award quelques années plus tard.
Voilà, on écoute tout de suite The Gossip et puis nous, on se dit à dans deux semaines. Salut.
Salut. You know that it ain't. This love I can't hold out.